Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Jérôme Pinault, Pascal Duprat, Denis Charvet et Fred Weiss. Gros débat pendant l'interruption. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les grandes gueules du sport?
Alors, Fred Weiss nous a dit que l'IA allait nous tuer.
Ah oui.
Voilà,
oui,
on est allé très loin quand même.
On est beaucoup moins productif que l'IA, et surtout toi.
Je sais pas si l'IA arrivera à produire un Pascal Duprat. Tu vois, c'est unique.
Qu'est-ce que t'en penses de l'IA, toi, Pascal?
Moi, j'en pense et du bien et du mal. Donc, je la fais un peu la sauce de Denis Charvet. Du bien, du mal, voilà.
Match nul. Je vois match nul.
C'est pas bien ce que tu fais, Pascal. Hein, mais...
Moi, non, Denis, pas toi.
Moi qui t'aimais.
Non,
mais
pas,
bon.
Toi.
Pas toi. Pas toi.
Pas toi
aujourd'hui.
Mais ça m'empêche pas de t'aimer. Le conduit, moi, je cherchais le débat. Moi,
les bons amis, on leur dit toujours la vérité. C'est ça ce qu'on attend de nos amis. C'est qu'ils nous disent la vérité.
Peut-être que dans le vestiaire, un jour, on fera. Est-ce que l'IA va vous remplacer?
Fais-le la semaine prochaine. Non, il faut du double A pour Fred Weiss. C'est l'IAA. A++.
L'IAA.
Allez, les amis, au programme de la deuxième heure. Dans un instant, l'invité des grandes gueules du sport, Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, sera avec nous. C'est la journée paralympique aujourd'hui, 4e édition. On est un an après les JO de Paris. On a beaucoup de choses à lui demander, l'héritage notamment et la baisse des budgets. Puis la zapette des GG. Vos GG vous disent qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end. Vous laissez des messages ou des notes vocales sur notre numéro WhatsApp au 06 12 424 424 pour participer à l'émission, votre numéro habituel au 32 16. Tiens, je vous pose une question, vous savez que la Ligue 1 est dominée par un club, ça vous dérange vous? Oui, bon, on en a parlé un petit peu ici. Et le top 14 alors?
RMC, le ring des GG.
Du pompier en mer, qui va au rein, est-ce qu'il va y aller tout seul? Il est à
essai
d'Antoine Dupont, le ballon qui passe entre les pères.
Le Stade Toulousain a gagné.
Le Stade Toulousain, champion de France, cette génération est inarrêtable.
23-0.
Oh là là, Dupont, c'est incroyable. Dupont, le coup de pied assis. Quel essai magique côté Toulousain.
C'est la piquette, Jack.
C'est terminé. Ça va en l'air. Ça va. Hey, Toulouse est champion de France.
Toulouse,
22e bouclier Brennus. Incroyable.
Tu sais pas jouer, Jack.
Le 9e essai Toulousain. En quoi? C'est une orgie. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. C'est terminé. Jamais rassasié. Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus.
C'est mauvais.
Allez, le Stade Toulousain.
Toulouse. Sur le ring des GG aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la saison de Top 14. Ça commence dès 13h avec Stade Français face à Montauban, le promu surprise ce soir 21h05. Déjà un choc, hein. Bordeaux-Bègle, La Rochelle, confrontation entre les deux derniers vice-champions de France, ceux qui ont tenté mais se sont cassés les dents face au triple tenant du bouclier de Brennus, le Stade Toulousain, qui débute demain soir à Clermont. Toulouse qui a remporté 5 des 6 derniers championnats, c'est une véritable dynastie. Je vous pose la question, les GG, l'hégémonie toulousaine est-elle un problème pour le top 14? J'ai deux oui, Fred Weiss, Jérôme Pinault, deux noms, Denis Charvet et Pascal Duprat, qui mènent pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, c'est non à 71%.
Oh là là, c'est les connaisseurs de rugby.
Non, l'hégémonie n'est pas un problème.
Ouais, comme toi, Pascal, d'ailleurs.
Avec de vrais arguments.
Oui.
Oh là là.
On vous laisse patauger.
La voix du rugby nous rejoint pour nous élever.
Ah, c'est pas Denis Charvet, la voix du rugby.
Peu. Ah non, c'est Wilfried Templier, quand même.
Bah, Wilfried, c'est quelqu'un.
Ouais, enfin, c'est quelqu'un, vite fait, quand même.
Bonjour, quelqu'un.
Bonjour. Ah, il est là.
Non, pas vite fait.
Calme-toi, grand.
Wilfried, alors en Ligue 1, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les adversaires ont un peu accepté la domination du PSG. En top 14, Toulouse n'écœure pas encore tout le monde?
Bah pas encore, on a l'impression, alors je sais pas si c'est de la simple lucidité ou déjà du dépit de début de saison, mais on s'en est rendu compte dans le sondage de nos confrères du Midi Olympique Midi Olympique qui fait voter les entraîneurs en début de saison, puisque 9 d'entre eux, donc sur 14, voient le Stade Toulousain champion de France déjà au moment où on se parle. Les 5 autres l'imaginent au moins finaliste, et pour finir, tous l'annoncent qualifié directement pour les demi-finales, donc aux deux premières places du classement. Faut dire que Toulouse est triple champion de France en titre, a été premier du classement 4 fois sur les 5 dernières saisons, mais aussi que ça fait 40 ans que ce club gagne. Sachez que le club a cette année un maillot un peu vintage inspiré du titre de 86. Et bien si vous comptez celui acquis l'année juste avant 85, depuis cette date, le Stade Toulousain a décroché 17 boucliers de Brennus. Ah oui, vous ajoutez 6 Coupes d'Europe et ça fait 23 titres en 40 ans. Plus d'une année sur deux, ils gagnent. Sur cette durée, c'est colossal. Alors c'est peut-être pas fini parce que cette exceptionnelle génération dont dispose ce club actuellement a toujours expliqué qu'elle voulait marquer l'histoire du Stade Toulousain. C'est-à-dire être la meilleure en fait. Avec 5 titres et 2 Champions Cup, elle y est presque. Mais il y a une chose qui lui manque encore pour tuer le jeu, définitivement. Dans les années 90, Didier Lacroix et Jérôme Casalbou, qui sont maintenant dirigeants, ont fait 4 titres de suite. De 94 à 97. Vous me voyez venir? Pour être la génération absolue parmi toutes les équipes de l'histoire
c'est
de cette
année. C'est maintenant.
Il faut même en ajouter 2. 5 titres de suite, c'est du jamais vu.
J'ai l'impression du coup que Jérôme Pinault t'avait vu venir. Effectivement, l'hégémonie toulousaine est-elle un problème?
C'est une véritable hégémonie.
Pour le top 14. Alors vous, on va vous donner la parole. D'abord, vous dites oui, c'est un problème, Fred et Jérôme. Fred.
C'est un problème, évidemment, parce qu'on parlait d'Alcaraz Sinner tout à l'heure en tennis, où on disait qu'on se lassait. On se lasse forcément. Quand on n'est pas un observateur avisé comme Wilfried ou Denis, qu'est-ce qu'on se dit au début d'une saison de rugby? Qu'est-ce qu'on se dit? Les champions de France, ce sera Toulouse. Et donc à partir de là, tu te dis, on va voir qui sera finaliste, comment ça va se passer la saison. Et donc forcément, elle a moins de piment, elle a moins d'intérêt. On a moins envie de regarder quand on sait déjà le résultat final. Et c'est ce qui arrive dans toutes les compétitions.
Il n'y a jamais autant d'intérêt.
Moi, on m'avait vendu La Rochelle comme l'équipe qui allait. Gratter de cette équipe de Toulouse. La Rochelle, ils étaient où l'année dernière? Donc,
La Rochelle sortait de deux titres champions d'Europe consécutifs.
D'accord, sauf que depuis, ils sont où? Ils sont où? Effectivement,
ils sont où? Ils ont digéré les titres.
Est-ce que tu penses pas? Petite comparaison avec le football.
Pascal.
Fred et Jérôme, est-ce que vous trouvez que l'hégémonie est aussi flagrante que Paris Saint-Germain football?
Mais pas du tout, ils ont perdu sur la Ligue 1.
Oh, c'est de plus en plus serré, de plus en plus difficile pour les Toulousains d'être champion de France. Le meilleur championnat au monde. C'est le top 14, messieurs.
Final, c'est comme
donc Toulouse y est pour quelque chose et permet aux autres d'avancer aussi.
Non, mais Pascal, tu peux pas dire ça et te dire aussi que t'as forcément besoin d'un UBB qui va continuer à progresser pour les chatouiller encore plus. T'as besoin du Stade Rochelet qui revient au top niveau. T'as besoin du Racing Club de Toulon, du Rugby Club de Toulon parce que Toulon fait partie de ce paysage-là. De Bayonne qui confirme sa super saison.
Donc, de plus en plus d'équipes armées pour contrer l'hégémonie.
La concurrence, il la tire vers le haut. C'est là où je suis pas d'accord avec vous.
Pas pour le moment.
Mais si, pour le moment. La preuve, c'est qu'en demi-finale de la Coupe d'Europe, Bordeaux, ils ont gagné Toulouse. C'est pas significatif pour vous. Et ils perdent en prolongation contre Toulouse, en finale. Ça veut dire que.
Oui, mais l'année d'avant, ils
prennent une marge absolue. Ça veut dire que Bordeaux, progressivement, ils se mettent au niveau de Toulouse. Je suis désolé. Et grâce à qui? Grâce à l'exemple, grâce à Toulouse qui montre la voie à tout le monde. Et en fait, Toulouse.
Le seul bémol de dire, c'est qu'il n'y avait pas Dupont.
Il faudrait le remercier tous les jours, Toulouse, parce que, avec le spectacle qu'ils produisent.
Ils
tirent vers le haut, le championnat, le top 14 et la Ligue nationale de rugby, il faudrait le remercier tous les jours. Mais s'il n'y a pas Toulouse, je suis désolé, il n'y a pas ce niveau
c'est
de top 14.
C'est pas ce qu'on est en train de dire, Denis. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas Toulouse. Exactement. Je regarde le rugby parce qu'il y a Toulouse. En revanche, je me dis que pour l'attraction de ce championnat, qui est le meilleur du monde, certainement.
Il est de plus en plus attractif. Les meilleurs joueurs du monde viennent dans le top 14.
Et oui, justement,
Il faudrait, par exemple,
que l'UBB fasse une saison ratée comme l'a fait La Rochelle l'an dernier. Parce que.
Il faut
la concurrence pour créer du spectacle.
Et je suis d'accord avec Jérôme. J'ai parlé de La Rochelle. Effectivement, ils ont été concurrentiels pendant quelques années. Mais sauf qu'ils sont redescendus. Et je suis d'accord d'accord avec toi, ça te sans tire vers le haut. Mais si ça te tire vers le haut, que ponctuellement,
c'est pourtant un club qui travaille très bien.
Les amis, on va écouter justement ce que disent les autres clubs du top 14. C'est intéressant parce que là, on parle de l'hégémonie. On a interrogé Joan Codulo, le manager de Montpellier, sur l'hégémonie toulousaine cette semaine au micro de Julien Landry.
Bordeaux est en train de les concurrencer. Après, Toulouse aujourd'hui travaille bien. On aimerait les ressembler. C'est compliqué de les ressembler parce que c'est une structure qui est différente de la nôtre. Mais c'est une locomotive aussi, donc il faut aussi s'en servir et arriver à, en tout cas, à les dépasser. Ce sera compliqué. Je trouve que les clubs se structurent bien. Je trouve que le moyen long terme des clubs est en train de se mettre vraiment en place pour que le court terme soit positif. Et c'est ce qu'on aimerait nous à Montpellier. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Ouais. Mais c'est une source d'inspiration incroyable, Toulouse. Pourquoi les Bordelais aujourd'hui, on dit le jeu à la Bordelaise, comme il y a le jeu à la Toulousaine? Ça vient d'où, tu crois? Et pourquoi Bordeaux, maintenant, ils franchissent les étapes, ils ont gagné la Coupe d'Europe? C'est pas neutre, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est grâce aussi à Toulouse, c'est grâce à l'exemplarité. Il se trouve que Toulouse, c'est un des meilleurs clubs européens, mais parce que, ils ont travaillé pour.
Denis, la structuration de Toulouse, elle est quand même difficile à reproduire ailleurs, on est d'accord?
Mais non, ils sont très
pourquoi,
bien.
Mais pourquoi?
Mais pas du tout.
Le manager de Montpellier vient de le dire, il vient d'expliquer. Il dit, c'est difficile à reproduire la même chose. Mais ils ont pris tellement d'avance que c'est plus une locomotive, ça écrase en fait. Et quand alors, ça t'écrase,
c'est
ça
devient dangereux. Wilfried, c'est intéressant d'ailleurs d'en parler. Le Toulouse qui écrase peut-être de par sa structure et sa façon. C'est pas forcément une équipe qui est adulée aussi. On peut mettre un petit bémol dans le top 14.
Bah c'est l'équipe qui est suivie par le plus de supporters en tout cas, hein. Ouais. Ça peut aider pour le vote sur les réseaux sociaux là, pour votre débat, mais on s'est aperçu la saison dernière avec ce qu'on a appelé l'affaire Jaminet. Allez, pour faire simple sur ce sujet qui a été assez opaque, hein, pour lequel le Stade Toulousain a eu une amende, hein, 1,3 million d'euros, hein. On connaît toujours pas la sanction sportive, ça peut aller jusqu'à un retrait de points la saison prochaine, tout ça pour pas avoir inclus ou déclaré, on va dire, le rachat de contrat de l'arrière Melvin Jaminet quand il est venu de Perpignan. Ça a créé énormément de crispations en interne au Stade Toulousain, mais les autres clubs, on a vu qu'ils se sont engouffrés dans la brèche quand même pour réclamer des sanctions. Pierre-Yves Revol, le président de CASC, a envoyé une lettre au printemps à la LNR pour des sanctions, pour avoir les sanctions dissuasives. Je cite, il faut aller plus loin que les amendes et avec des sanctions relatives à l'interdiction de recrutement et au retrait de points. Autant vous dire qu'à Toulouse, dans le contexte, on n'a pas vraiment apprécié cette saillie, mais ça a été suivi du président de Martigues, du bébé, qui a dit le souci, c'est de savoir jusqu'à quel point on veut créer le PSG dans notre championnat.
Wilfried, ça aussi, ça a fait du bruit. Wilfried, t'as une cible dans le dos.
Et je terminerai avec ça, en fait. Je terminerai avec ça. Les autres présidents ont remis en cause ce qu'on appelle le crédit international. En top 14, il y a le salary cap. C'est la limitation de la masse salariale. Elle est 10,7 millions d'euros. Mais à cause des doublons du calendrier, chaque joueur sélectionné en équipe de France permet un dépassement de 180 000 euros. Ce qui fait que Toulouse, qui a parfois 10, 11, 12 joueurs chez les Bleus, peut disposer de quasi, 13 millions de masse salariale. Et bien plus que d'autres. Alors, prochaine règle en vue.
Après, ils sont privés.
Écoutez,
la rançon.
Prochaine règle en vue. On imagine un plafond de crédits internationaux à 6, 7, 8 joueurs pour plus avoir autant de dépassements pour les plus grands clubs et évidemment le Stade Toulousain surtout.
Ouais, après ils sont il y a l'effet inverse pour eux quand même, le fait de pas avoir les internationaux et de jouer les doublons.
Ils ont
un gros effectif effectivement,
puis,
c'est là où
puis
ils sont forts.
Et puis c'est quand même le signe,
ils ont fait jouer des jeunes, ils ont pris des risques aussi.
Si la Ligue et la FFR se posent la question de limiter ces choses-là, c'est quand même eux aussi qui craignent.
Ça c'est un point du règlement. Revenons-en au, c'est bien ce que tu dis Wilfried, mais revenons-en à la question.
Merci.
La question c'est l'hégémonie. Non mais tu me parles de finances, tu me parles de règlement, mais venons-en, c'est pas d'aujourd'hui que Toulouse est hégémonique, 24 titres, 24 boucliers de Brennus, donc ça fait longtemps. Pour autant, est-ce que le top 14 perd en crédit, en crédibilité, en popularité? La réponse est
Pascal,
clairement non.
Je te dis, plus 6% d'audience dans les stades cette année, l'année dernière, c'est,
moi, merci.
C'est 6 des 8 clubs ont battu leur record historique.
Bon, donc tout ceci, en plus des performances en Europe des clubs français. Je vous rappelle que sur les 5 dernières années, 3 clubs français se sont partagés les titres de Champions Club. Toulouse, bien sûr, 2 fois, La Rochelle 2 fois et Bordeaux cette année. Donc, où vous allez me dire que Toulouse empêche le top 14 de gravir des échelons et des échelons qu'il va gravir encore parce qu'il y a de nombreuses équipes dans ce top 14 qui tentent de rivaliser avec Toulouse. L'UBB en est l'exemple frappant. La Rochelle, et j'en passais d'autres. À Toulon, vous croyez que Pierre Mignoni à Toulon, il dort? Croyez-moi, vous allez voir encore cette année.
On craint justement
au 32-16.
En craignant les Gémeaux, justement, on a envie qu'il y ait de la concurrence.
Votre avis au 32-16. Michael nous appelle au 32-16, supporter de Pau. Tiens, c'est important de le dire. Salut Michael.
Tout le monde peut se tromper.
Salut à tous. Salut.
Bon, est-ce que l'hégémonie de Toulouse est un problème pour le top 14 pour toi?
Honnêtement, non. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Pascal. Du coup, je suis pas d'accord avec Fred. L'hégémonie de Toulouse, elle existe depuis des années. Du coup, à divers époques, même à l'époque dans les années 90, à l'époque d'Albert Cigagna, à ces époques-là, du coup, après, à ceux qui ont suivi.
Et Denis Charvet, oui, pour ne pas l'expliquer,
mais du coup, il va s'enflammer après.
Non, c'est pas grave, il s'enflamme. De toute façon, il s'enflamme.
Je plaisante, du coup, mais non, le truc, c'est que, mine de rien, Toulouse, ils sont là depuis 4 ans, ils sont champions, mais enfin, à part que Fred disait qu'ils ont éclaté Bordeaux il y a deux ans. Mais l'année dernière, Bordeaux a failli gagner en prolongation. Bordeaux, les
Lens,
ils ont
failli gagner.
Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, enfin, vraiment, ça se rapproche. La Rochelle, ils perdent, il y a 3 ans, ils perdent à la dernière minute de jeu.
Et ils sont où, la Rochelle, maintenant?
La Rochelle, ils sont où? C'est en construction. C'est comme Toulouse à l'époque où c'était l'hégémonie un petit peu de Toulon. Toulouse, on les voyait pas trop, du coup, au moment où il y a eu quelques années où Toulouse, quand Toulon a gagné 3 Coupes d'Europe d'affilée, a gagné sur la Toulouse, ils étaient un peu dans le dur aussi, du coup, à l'époque où Moula est arrivé. Bon, du coup, je pense que c'est pas un problème du tout, parce qu'au contraire, toutes les autres équipes sont motivées à chaque fois à l'idée de rencontrer Toulouse, à l'idée de d'essayer de renverser le champion toulousain, qui en effet est un ogre avec l'effectif qu'ils ont. Mais je pense que c'est pas un problème. On l'a dit, j'ai entendu Wilfried parler de ce qu'il disait par rapport au pourcentage, enfin, à l'augmentation de
la masse salariale.
Alors non, pas la masse salariale, mais ce que je veux dire aussi, c'est que
par rapport à les subventions de
en top 14, l'audience supplémentaire, ça va dans tous les sens, du coup ça augmente.
Et je pense que ça porte profit au top 14, ça c'est pas la question, on en est à peu près persuadé.
Merci Mickaël d'avoir appelé au 32-16. L'hégémonie du Stade Toulousain était un problème. Tiens, on a beaucoup de messages également sur le numéro WhatsApp, hein, avec notamment Minsen Bits qui nous envoie pseudo, qui nous dit effectivement attention, parce qu'ils gagnent de justesse, hein, désormais Toulouse, on a vu sur la finale du top 14, c'est ce qu'on lit beaucoup, hein,
ça se rapproche
sur, voilà, effectivement, ils vont tomber à un moment donné,
avec une année sans Dupont,
il faut se rappeler.
Oui, attendez, il va revenir bientôt, hein, avant la fin de l'année, oui, quand même. Merci Wilfried d'avoir été avec nous, Wilfried Templier.
Merci Wilfried.
Salut le dernier.
Tous les matchs à suivre ce week-end sur RMC.
Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'on a la voix, mais RMC est la radio du rugby, vous le savez. Dès 14h, on aura Yann Delegue, Johan Huger ensuite, Julien Bruno, Pierre Rabadan pour vivre cette première journée du top 14. Vous ne raterez rien sur RMC. Les amis, le résultat des votes. Oui, l'hégémonie est un problème. 30%. Vous avez gagné un petit point quand même sur ce débat, évidemment. Mais bon, quand même, majoritairement, le public pense que ce n'est pas un problème. Mais vous avez un peu convaincu.
T'as entendu quand même que Wilfried nous a dit que c'est la majorité des supporters de rugby sont toulousains. Hein, donc,
bien sûr. Donc, effectivement,
et à Toulouse, on se réveille de bonne heure.
Tu peux plus gagner le débat, là. C'est terminé. Hein,
t'as fini.
Non, mais on a fini par gagner. On a gagné un point.
Allez, dans quelques instants, les
accepte
amis.
Accepte de perdre, Jérôme.
on accepte de perdre depuis longtemps,
mais là, on a gagné. Donc,
c'est culturel chez moi d'accepter de perdre.
J'ai hâte de vous
70 voir. À 30, vous avez gagné. Bien.
On a gagné un point.
J'ai hâte de vous voir dans les jeux du sport en fin d'émission tout à l'heure. Inscrivez-vous au 732-16, je vous rappelle, en envoyant sport. Dans quelques instants, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, et notre invité, c'est la 4e édition de la journée paralympique aujourd'hui, un an après les Jeux de Paris 2024, qui ont été un énorme succès. On a beaucoup de questions à lui poser. À tout de suite dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Fred Weiss, Jérôme Pinault, Denis Charvet et Pascal Duprat. Dans un instant, les amis, vous allez nous faire le programme du week-end. Gros programme, hein, ce week-end. Je crois que Pascal veut absolument regarder ce qui se passe en Italie. Et ce n'est pas du football. Je crois que c'est un tifosi. De Ferrari, non? Ouais, t'es plutôt Ferrari,
ouais,
Pascal.
Du Grand Prix d'Italie.
Oh
oui.
là, tu vas nous vendre ça dans quelques instants. Évidemment, vous allez tout vivre sur AMC, les grands événements sportifs du week-end. Ce sera la Zapette tout à l'heure, mais tout de suite, on accueille l'invité des grandes gueules du sport ce samedi.
Et allez,
direction Quincon qui va franchir dans 10 secondes la joie de tout le monde. Il a survolé cette course et il finit en marchant. Il va franchir la ligne dans 2 secondes. C'est fait, Alexis Ocampo, champion paralympique.
Pour la première fois de son histoire, les pleurs des joueurs français.
Aurélie Aubert va s'imposer 5-4. Le score final, le sourire magnifique sur le visage d'Aurélie Aubert qui ne tient plus en place. La victoire, elle tombe dans les bras de son assistante, de sa guide. Ça va faire médaille d'or paralympique pour Aurélie Aubert. La première médaille de l'histoire de la boccia française, elle est en or.
Ah, c'était les frissons, les grands souvenirs de Paris 2024, l'année dernière, les Paralympiques que l'on avait vécu ensemble sur RMC. Vous avez écouté le CC Foot, souvenez-vous, c'était incroyable au pied de la Tour Eiffel. Aurélie Aubert, la boccia, le badminton, et aussi avec Charles Noakes, c'était dingue, 75 médailles pour la France. Et aujourd'hui, c'est la troisième édition de la journée paralympique, qui est donc placée sous le signe de la célébration de ces Jeux également. On va parler d'héritage. Et on a Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, présidente aussi de l'Agence nationale du sport, qui est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport sur RMC. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes à la communale à Saint-Ouen pour cette journée paralympique, où il va y avoir plusieurs activités. Déjà, pour que nos auditeurs comprennent bien, la journée paralympique, troisième édition, c'est quoi et c'est quoi le but aussi?
Effectivement, on vous donne rendez-vous aujourd'hui à la communale de Saint-Ouen pour découvrir sept disciplines parasportives, en passant par l'aviron, le tir, la boccia, le paratriathlon. Vous aurez aussi, et c'est l'enjeu de ce moment-là, c'est de donner un moment de rencontre privilégié entre le public et les athlètes. Donc vous avez plus de 70 athlètes paralympiques qui vont venir toute la journée être présents sur le stand de leur fédération, vous donner des talks inspirants pour expliquer ce que c'est finalement d'être un athlète paralympique, ce que les athlètes ont ressenti pendant les Jeux. On aura bien évidemment, à l'instar du petit sujet que vous avez mis pour introduire notre échange, des retours en images sur les Jeux de Paris 2024. Et une très belle séquence ce soir à 18h30 de célébration des athlètes de Paris 2024, mais aussi des futurs athlètes de Mico, de Milan Cortina en 2026. Et puis cette nuit, ce soir, ce sera la fête à partir de 20h, une grande programmation musicale. Donc voilà, on va mettre cette communale à la couleur des Jeux paralympiques et revenir ensemble sur les émotions de Paris 2024.
Les émotions, évidemment, on les a écoutées il y a quelques instants aussi, Marie-Amélie Le Fur. Évidemment, il va beaucoup être question d'héritage, j'imagine, aujourd'hui dans les discussions, même si on est beaucoup dans la célébration dans cette journée paralympique. Mais l'héritage, un an après, c'est une donnée très importante pour vous, j'imagine.
C'est une donnée importante, effectivement. Et en fait, il faut la séparer en deux grands volets. Le premier, c'est que nous, on a un véritable héritage en termes de notoriété, en termes de dynamique, en termes de reconnaissance des athlètes paralympiques. Je pense que, voilà, 5 ans auparavant, personne ne connaissait aussi bien les Jeux paralympiques. 3 semaines avant les Jeux, personne ne connaissait la boccia et personne ne connaissait Aurélie Aubert. Donc, il y a vraiment eu un gain de notoriété. Il y a aussi eu un gain, finalement, dans l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Plus de demandes, et on le ressent dans les licences, plus d'offres disponibles dans les territoires, et on doit continuer cette dynamique. Mais c'est vrai que on peut pas cacher que, une fois cette page de Paris 2024 refermée, une fois la copie budgétaire de 2025 travaillée, ça a été la grosse claque pour nous, de se dire que ça fait plus de 10 ans quasiment qu'on travaillait sur le projet 2024, qu'on était en train de placer le sport comme un outil essentiel de la société, et de voir comment le sport a été maltraité dans le budget 2025, il est prévu qu'il soit maltraité dans le budget 2026. C'est totalement incompréhensible parce que c'est un impact notable dans la société. Et concernant notre secteur, c'est vraiment un vecteur d'émancipation des personnes en situation de handicap.
Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, est en direct avec nous dans les grandes gueules du sport sur RMC en cette journée paralympique. Denis Charvet.
Non, mais justement, pour parler de l'héritage, vous parlez de fortes demandes. Est-ce qu'il y a eu un véritable accroissement des licenciés depuis les Jeux ?
Oui, en fait, on ressent. Alors, il y a des dynamiques assez hétérogènes d'une fédération à l'autre, mais on a une grande partie de nos fédérations qui mesurent une augmentation de la demande, mais également de la demande en personnes, des personnes en situation de handicap. Par exemple, sur une discipline comme la boccia, c'est plus 20% de licenciés. Sur des fédérations comme le badminton, comme le triathlon, on va être sur des dynamiques autour de plus 10, plus 15%. Donc, c'est une réelle dynamique. Par contre, on sait aussi toute la difficulté qu'ont les clubs pour des raisons d'encadrement, pour des raisons de disponibilité des équipements sportifs, hein, que les clubs ont dû refuser aussi la demande à certaines personnes. Donc on doit continuer collectivement à travailler sur la disponibilité de cette offre, hein, et aussi son ouverture aux personnes en situation de handicap.
Et vous n'avez pas parlé du Cécifoot ? Il y a eu un élan aussi.
Un boom.
Oui, il y a eu un élan, effectivement. Je n'ai pas pu citer toutes les disciplines,
non, mais celui-là, parce que
je suis déjà bavarde. Mais oui, bien évidemment. Il y a eu un vrai effet. Enfin, ce match, ce titre paralympique, l'enceinte du Champ de Mars a donné une visibilité extraordinaire à la discipline et ça se ressent. Après, on sait que c'est aussi compliqué sur un territoire donné de pouvoir regrouper comme ça une équipe de déficients visuels, de personnes aveugles, d'avoir des terrains adaptés. Et j'en profite pour dire que demain, nous inaugurerons en proximité immédiate de Paris, un terrain de Cécifoot. Donc c'est aussi, ça démontre la dynamique des collectivités pour aussi s'équiper d'équipements qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap.
Cécifoot incroyable, rappelez-vous, ça faisait comme ça pour déterminer où étaient les poteaux pour les tireurs. On avait vécu au pied du Champ de Mars, c'était dingue. Fred Veil, c'est une question pour vous, Marie-Amélie Le Fur.
Marie-Amélie, on parle de sport là, mais moi ma question elle est plus globale sur la vision du handicap en général. Vous pensez que grâce aux Jeux Olympiques on a compris des choses? Est-ce qu'on a fait des efforts sur le handicap en général? Et ça fait aussi partie de l'héritage, j'imagine.
Alors, dans la continuité de la vision de notre chef de mission qui était Michael Jérémiaz, il faut pas être utopiste. Il faut pas croire que les Jeux paralympiques ont révolutionné la façon dont vivent les personnes en situation de handicap en France. Ça n'a pas rattrapé 20 ans de politique publique insuffisante, en termes d'autonomie des personnes en situation de handicap. Par contre, ce qu'on mesure très bien un an après les Jeux paralympiques, c'est l'impact sur le changement de regard, l'impact sur la compréhension des compétences et des capacités que possèdent les personnes en situation de handicap. Ça a été un vrai choc culturel. Et on a eu une étude toute récente qui vient de paraître et qui a été portée par le Comité Paralympique International. Et on se rend compte que les Jeux de Paris 2024 ont eu cet effet-là en France, mais ils l'ont eu aussi au travers le monde, où il y a vraiment eu une dynamique, une compréhension, un changement de regard, de voir non plus les personnes uniquement par le prisme de ce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils sont en situation de handicap, mais de comprendre tout simplement qu'ils sont capables différemment si on met un environnement adapté à leur disposition.
Marie-Amélie Huffur, présidente du Comité paralympique et sportif français, est notre invitée dans les grandes gueules du sport sur RMC en cette journée paralympique. Pascal Duprat.
Oui, Marie-Amélie, bonjour. Vous parliez à l'instant des licenciés, donc qui sont en recrudescence. Qu'en est-il de l'encadrement? Parce que j'imagine que les entraîneurs, les guides, il en faut. Y a-t-il des moyens alloués par l'État pour le recrutement de ces encadrants?
Alors merci pour cette question, Pascal. Effectivement, là une réponse aussi sur deux champs. Le premier, c'est le champ du haut niveau, et on le sait au travers des Jeux de Paris 2024, il y a eu une vraie volonté de professionnaliser les athlètes et leur encadrement. Et cette vision, elle est aussi venue irriguer le mouvement paralympique avec des moyens qui ont été multipliés par 4 et qui ont permis aux coachs d'être professionnalisés, d'être mis à disposition, et aussi pour certains d'entre eux de recevoir une formation un peu spécifique pour aller encore plus loin dans la préparation des athlètes de haut niveau paralympique. Mais on sait aussi que obtenir plus de médailles, avoir une nation plus parasportive, ça passe aussi par les clubs de proximité et donc par la capacité des encadrants, des bénévoles, des dirigeants de nos clubs locaux dans les territoires de se sentir en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et là, nous, on va bientôt fêter les 3 ans du programme Club Inclusif qui a permis, dans la projection fin d'année, de former 2800 nouveaux clubs à l'accueil de personnes en situation de handicap. C'est une sensibilisation qui vise tout simplement à démystifier identifier ce qu'est la situation de handicap, ce que c'est d'avoir une personne en situation de handicap dans son club et d'établir la conversion du modèle sportif français.
Mmh. Jérôme Pinault, question pour Marie-Mélie Buffur.
C'est même pas une question, c'est que je sais qu'aujourd'hui, c'est donc cette journée est organisée à Saint-Ouen. Est-ce que vous avez quand même invité ces politiques qui vous ont fait des promesses qui les ont jamais tenues, parce que vous savez qu'ils vont venir pour la photo faire des grandes promesses et qu'ils vont pas les tenir? J'ai une autre question, c'est on parle de ce qui se passe dans les communes, dans les com-com maintenant, puisque moi je vis dans un milieu rural, il se passe rien, vous le savez. Moi j'ai des gens autour de moi qui aimeraient pratiquer certains sports paralympiques, qui peuvent pas, il y a pas d'installation, il y a pas de guide et il y a pas de budget pour ça. Est-ce que finalement, Amélie, vous croyez pas que il faut se prendre en main, nous, le mouvement sportif dont les politiques se sont servis pour se mettre à l'honneur, plutôt que de faire confiance à ces gens-là, puisque on le sait maintenant depuis quelques années, mais c'est encore plus flagrant récemment, ils sont tous plus incompétents que les uns que les autres et qui ne feront rien pour nous, ni pour le paralympisme, ni pour le sport. Non, mais c'est pas des amis, j'ai pas besoin d'être ami avec eux, je cherche pas ça, et il y a bien longtemps que je suis plus ami avec eux. Moi, c'est un peu ça la question, c'est est-ce que il faut finalement pas passer par un autre mouvement, et compter sur nous, le mouvement sportif, pour aller chercher à mettre des choses en place, plutôt que sur ces gens-là qui vont forcément, ils vont être très beaux à côté de vous aujourd'hui sur la photo.
Question complexe.
Ça, y a pas de souci.
Marie-Amélie Le Fur.
Non, mais question totalement légitime. Déjà, c'est de dire que cette photographie, elle est pas véritable sur l'ensemble des territoires. On a vraiment des dynamiques de territoires qui sont très différentes. Et quand on resserre au prisme du parasport, c'est-à-dire que je ne vous fais pas une expression sur la politique globale du handicap, mais vraiment sur le sujet du parasport, on a vraiment des collectivités qui, par l'impulsion de Paris 2024, ont changé de paradigme, ont pensé différemment le fait d'impulser une politique publique du sport en incitant beaucoup plus leur tissu local à se tourner vers le parasport, en mettant en place des bonus à la subvention dès l'instant que vous créez une section qui accueillait des personnes en situation de handicap. Les collectivités nous ont aussi aidé à cofinancer le programme Club Inclusif. Et moi, j'entends quand vous dites pourquoi c'est pas au mouvement sportif finalement de le faire et de le faire seul, mais parce que le mouvement sportif seul, il peut pas établir la conversion qu'on a besoin de faire. On a besoin, et vous l'avez très justement dit dans votre question, de faire une conversion globale. Parce que quand bien même votre club, il aurait des éducateurs qui seraient accueillants, qui seraient formés, si votre réseau de transport, il n'est pas adapté, vous n'arrivez pas au club. Si votre équipement sportif, il n'est pas mis en accessibilité, vous pouvez pas rentrer dans cet équipement. Si votre médecin, votre professeur de PS, vos parents ne vous incitent pas à faire du sport, eh ben, vous allez pas vous inscrire dans un club local. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une approche systémique, c'est une approche globale. Et forcément, comme toute approche systémique, ça prend du temps parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut embarquer et parce qu'il faut projeter des projets concrets à l'échelle du territoire.
Marie-Émilie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, est avec nous en direct dans les grandes gueules du sport sur RMC. Une dernière question, Marie-Amélie, vous avez parlé de claque tout à l'heure, justement en parlant de la suite du budget. Bah, vous avez parlé de Michael Jeremias, champion paralympique, évidemment une grande voix du paralympisme en France, a parlé il y a quelques jours dans Anaïs Matin. D'ailleurs, il était invité de trahison politique. Le moment de la France, là, c'est un gouvernement en difficulté. Voilà, François Bayrou qui fait voter la confiance. Donc, un ministère des Sports aussi qui peut beaucoup évoluer. Qu'est-ce que vous dites dans ce moment-là aussi aux athlètes paralympiques que vous allez croiser par exemple cet après-midi? Il faut se préparer à ce que ce soit difficile. Il y a quand même un discours de lucidité où il faut se battre.
Non, il va falloir se battre, il va falloir collectivement s'engager. C'est aussi de rappeler aux athlètes que ce sont nos plus beaux ambassadeurs. Et dans un moment où on a une incertitude politique, on a une incertitude budgétaire, et aussi, on n'en a pas forcément parlé, où on a un fort désengagement du secteur privé envers les athlètes, bah moi, je veux vraiment qu'on travaille main dans la main avec les athlètes pour faire cette notoriété des Jeux paralympiques, pour faire cette notoriété des athlètes paralympiques et arriver à sécuriser leur projet de sportif de haut niveau, tant sur les financements publics sur lesquels on a quand même des garanties sur le côté haute performance, mais également en pouvant faire appel au secteur privé qui doit venir adosser ses financements pour compléter le projet de vie d'un athlète de haut niveau.
Merci beaucoup Marie-Amélie Le Fur d'avoir été avec nous, présidente du Comité sportif et paralympique français, présidente de l'Agence nationale du sport également cette journée paralympique. On va revivre les émotions quand même dans cette journée et en faire une célébration aussi. Merci Marie-Amélie.
Merci à vous.
Plein de messages hein, sur le WhatsApp d'RMC au 06 12 424 424. Sylvain D2 également. Globalement hein, c'est il faut en faire plus, voilà, plus d'infrastructures, il faut entendre plus, il faut pas que les Jeux Paralympiques soient une parenthèse que l'on a vécu à Paris 2024. Et c'est la même chose sur les Jeux Olympiques hein, évidemment.
Le sport en
on
général.
On a beaucoup parlé tout l'été sur RMC, bah, avec Fred on a fait les Intégrales Sport et on a entendu beaucoup d'athlètes dire qu'ils étaient en galère hein, les athlètes olympiques maintenant que les investisseurs privés notamment ne sont plus là. Vaste sujet évidemment dont on continuera de parler dans les grandes gueules du sport avec Denis Charvet, avec Jérôme Pinot, avec Pascal Duprat, Fred Weiss. Dans quelques instants vous allez nous dire ce qu'il ne faut absolument pas rater ce week-end. C'est la zappée de DGG sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino,
Denis Charvet, Jérôme Pinot, Pascal Duprat, Fred Weiss autour de la table aujourd'hui. Dans un instant, les amis, on va ouvrir votre vestiaire. Comment savoir arrêter à temps? Ah oui, Djokovic, 38 ans, a dit qu'il allait encore continuer. Est-ce que vous n'avez pas tous forcément su arrêter à temps? Vous allez me dire ça tout à l'heure. Mais
d'abord, t'as repris le lead, hein, Denis, quand même. Il a commencé toute l'émission par Jérôme Pinot. Là, ça y est, on est avec Denis Charvet. Ça y est.
T'as repris ta place. Oh, la gestion des égos.
Il s'est réhabitué à venir. En fait, il ne le voyait plus. Donc,
dans la gestion des égos, faut que je fasse gaffe à qui j'annonce. En premier aussi.
Ah, évidemment.
Attention, je ne sais pas.
Moi, j'ai prévenu mon père ce matin que tu allais me citer en premier. Toi, là,
J'y serais Drouet m'avait dit il n'y a aucun égo.
Il t'a menti.
Allez, d'abord, qu'est-ce qu'il faut absolument suivre ce week-end?
RMC, la zapette des GG.
Vous le savez, vos GG du sport vous font le programme de week-end, ce qu'il ne faut absolument pas manquer, ce qu'il faut écouter absolument. Pascal Duprat, je te donne la zapette. Qu'est-ce qu'il faut écouter?
Oh là là, ne manquez surtout pas, chers auditeurs, le Grand Prix de Monza, le Grand Prix d'Italie, ce Grand Prix mythique demain après-midi, parce que y a beaucoup d'incertitudes. Déjà, d'une part, le titre, qui jouera probablement entre les deux pilotes McLaren, entre Piastri et Norris. Il y a 34 points de retard entre les deux pilotes. Ne manquez surtout pas ce Grand Prix parce que Verstappen, il a beau avoir 100 et quelques points de retard, on ne sait jamais avec cet artiste des pistes. Et puis ne manquez surtout pas le Français qui vient de faire un magnifique podium aux Pays-Bas. Donc il faut absolument regarder ce Grand Prix. Et aussi pour la Scuderia qui est un tout petit peu en difficulté, pour Hamilton, pour qui c'est le premier Grand Prix d'Italie. Donc les tifosi vont être tous derrière les Ferrari, d'autant que les Ferrari ont eu la bonne idée cette saison de saluer la mémoire de Niki Lauda en dotant leurs pilotes de voitures aux couleurs de celles que Niki Lauda empruntait il y a quelques années. Donc surtout ne manquez rien de ce Grand Prix de Monza.
Ah oui, effectivement, chez Ferrari, 15h les qualifications à suivre sur RMC, et demain la course avec Jean-Luc Roy en plus. Tiens, d'ailleurs, demain, tu parlais de Ferrari, Pascal, en se posant la question, Hamilton a-t-il encore le droit à l'erreur? Ça, c'est un gros débat.
Bonne question.
J'imagine que tu seras à l'écoute et que tu seras avec Lewis peut-être. On verra. Tu nous préviendras. Fred Weiss, je te passe la zapette. Qu'est-ce qu'il faut absolument suivre?
Moi, j'avais envie de parler d'équipe de France, d'euro, de phase finale, donc de basket, forcément. Il y a un euro qui se passe là et qui est hyper intéressant. L'équipe de France est une nouvelle équipe.
Ah bon ?
Une équipe avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs. On a par exemple un Zachary Xaché qui a été numéro 1 de l'avant-dernière draft. Un joueur incroyable, Gershon Ebouzélé, qui a dunké sur LeBron James. Mais on a un problème à l'intérieur. Vous savez, ce jeu où il y a des grands costauds comme moi. Et de l'autre côté, et vous savez qui on affronte ? La Géorgie. Où il y a Goga Bitadze, le joueur du Magic d'Orlando. Joueur très costaud, très grand. Il y a Mamouk Kelashvili, l'ancien coéquipier de Victor Wembanyama au San Antonio Spurs.
Donc c'est un joueur
extraordinaire, costaud. On a Shermadini. Alors lui, c'est le sosie officiel de Mr Bean, mais à 2m17. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder. Ça va être un match intéressant. C'est une phase finale, c'est un huitième. Tout le monde pense qu'on va gagner contre la Géorgie. Ce ne sera pas si simple que ça. Match absolument à ne pas rater. France-Géorgie, dimanche, 14h15, prise d'antenne, 13h45.
Je sais que
ça joue.
Ça joue à Riga.
Ça joue à Riga.
Riga.
Ouais. Je sais que Pascal a surligné, il faut regarder pour un Mr Bean à 2m17. Franchement, ouais. C'était le meilleur argument, je crois. 8e de finale, la 14h15.
Presse, la presse des joueurs. Demain.
Ce sera évidemment à suivre sur RMC avec Félix Gabory et Stephen Brun. Sur place, Jérôme Pinault, tu as la zapette. Qu'est-ce qu'il faut absolument écouter et regarder?
Eh bien, moi, je vous invite à regarder cet après-midi, la 14e étape de la Vuelta España. C'est en ce moment avec Vingegaard qui voulait finalement se rattraper un peu de son Tour de France, qui pensait dominer, aller gagner une Vuelta, et c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, encore une étape de montagne, une étape courte, alors vous pouvez dormir un petit peu au début de l'étape, pas de souci, mais faut pas louper le final. Il y a deux fois des premières catégories, notamment la réplique de l'Angliru qui a eu lieu hier. Il y a eu une belle bataille hier sur les rampes de l'Angliru entre Vingegaard et Almeida. Alors, on a souvent critiqué Pogacar, Vingegaard. Moi, j'essaye de faire gagner Denis au Paris depuis un petit moment. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que Vingegaard, finalement, il n'arrive même pas à écraser la concurrence et il n'arrive pas à écraser Almeida.
Mais ça, t'aurais dû le savoir avant.
Et donc, aujourd'hui, bataille au sommet entre Vingegaard et Almeida. Les autres sont beaucoup plus loin. Mais encore une bataille entre Visma, Lise Bike et l'équipe de Tadej Pogacar, emmenée cette fois par le Portugais. C'est aujourd'hui 138 bornes de la montagne, du soleil, l'Espagne. On va se régaler.
Formidable. Et c'est à suivre en plus avec Maria Azé sur RMC dans l'intégral sport tout le week-end.
Il n'y a pas Mr Bean, par contre.
Demain, il faut absolument être devant vos écrans demain à 17h45. Ou à la radio, bien sûr, sur RMC. Oui, évidemment. Le 15 de France féminine, je ne sais pas comment.
Bien sûr,
féminin. Affronte l'Afrique du Sud en Angleterre. Les coéquipières de Marine Ménager vont affronter ce qu'il y a de meilleur. Pas de meilleur, parce que l'Angleterre est encore au-dessus, mais l'Afrique du Sud, c'est très, très costaud. C'est un match, on va voir si les Françaises sont prêtes. Voilà, sont prêts dans leur objectif d'aller gagner cette Coupe du Monde. C'est vachement intéressant parce qu'on l'a vu contre le Brésil, il y a eu 3,2 millions de téléspectateurs.
Ben oui, c'est
colossal.
Ça
marche énormément et c'est surtout très agréable à voir jouer, même quand le score est fleuve. Et je vous conseille ce match parce que ça va piquer énormément.
Deux victoires, on rappelle, en deux matchs pour les Françaises. C'est le match décisif de la phase de poule. Ce sera à Northampton à 17h45 à suivre demain sur RMC avec les Naïcs Corson et Pierre Thévenet aux commentaires. Vous avez vu, on vous a dit tout ce qu'il fallait écouter week-end. Et tout ce qu'il faut écouter ce week-end, c'est où? C'est sur RMC. À écouter, évidemment. En direct, on vous attend évidemment à la fin de l'émission pour jouer avec vos GG dans les jeux du sport. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un Ghetto Blaster à gagner si vous participez, vous savez, pour écouter de la musique en faisant du hip-hop.
C'est toi notre Ghetto Superstar.
Appelez le 32-16. Touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16 pour participer. Dans quelques instants, la dernière heure des Grandes Gueules du Sport avec le vestiaire. Dans quelques instants, commencez à avoir arrêté à temps. Vous allez nous partager vos expériences alors que Djoko veut continuer. Messi aussi, on a plein d'exemples. Les GG sur le buzzer, le MMA a-t-il déjà ringardisé la boxe? Et les jeux, donc je vous le disais. On vous attend au 32-16 dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport.